Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite un très bon sabbat. Un des fléaux de notre société, et pas le moindre, c'est le fait d'être ingrat. On prend les choses comme allant de soi, et pire encore, on prend les choses comme un dû. Sénèque a dit ceci, s'abstenir de faire le bien, c'est cautionner l'ingratitude. S'abstenir de faire le bien, c'est cautionner l'ingratitude. Et il y a une citation aussi de Louis-Philippe de Ségur. L'ingratitude est un vice contre nature. Les animaux même sont reconnaissants. L'ingratitude est un vice contre nature. Les animaux même sont reconnaissants. Si vous ne savez pas qui était Louis-Philippe de Ségur, c'était un gentilhomme français d'orientation libérale, officier de la Révolution américaine, diplomate, homme politique, historien, poète, mais aussi chansonnier et goguettier. Et même, il y a même des conséquences légales, dans certaines circonstances, de l'ingratitude. Il peut y avoir, par la suite, de revocation de donation ou de legs et la fin de l'obligation alimentaire de celui qui la doit à, entre guillemets, l'ingrat. Et bibliquement parlant, nous voyons qu'il peut y avoir des conséquences dramatiques quand il y a l'ingratitude. Dans Nombres chapitre 20, et le verset 2. Nombres chapitre 20, verset 2, nous savons que les enfants d'Israël se plaignaient souvent, et ici c'était une fois de plus. Dans Nombres chapitre 20 et le verset 2, il y a aussi plusieurs clés que nous pouvons relever ici. Nombres chapitre 20, verset 2. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple cherchait querelle à Moïse, et dire, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? C'était pas vrai, évidemment. Mais les émotions commencent à prendre le dessous. Les émotions négatives. Verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Et là, les émotions commencent à prendre le dessous. Et il faut pas, toujours dans la vie, s'attendre à avoir exactement la même chose de ce que nous avons eu dans le passé. Du reste, avec le COVID-19, nous avons dû nous habituer à un autre régime. Tout à fait autre chose que ce que nous avons connu dans le passé, et parfois des choses bien différentes. Si vous regardez le chapitre 21, Nombres chapitre 21, verset 1, c'est toujours le même thème qui revient de la part des enfants d'Israël. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananiens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et on nomma le lieu Horma. Et si je parle de ceci, c'est parce que là, il y avait un esprit positif. Un esprit positif vis-à-vis de Dieu. Mais on voit que ça change très rapidement dans le verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Edom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Les choses avaient changé. Ils n'avaient plus la nourriture qu'ils avaient en Égypte. Et là, on voit qu'ils méprisaient la manne que Dieu avait donnée. Nos yeux, du reste, dans Nombre chapitre 11, à un moment donné, ils ont dit, nos yeux ne voient que la manne, mais la manne, c'était nécessaire pour vivre. Seulement, ils étaient ingrats vis-à-vis de la manne que Dieu donnait. Mais si nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, nous ne serons jamais satisfaits. Si nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, nous ne serons jamais satisfaits. Il faudrait, je veux que nous soyons reconnaissants pour ce que nous avons. Déjà pour ce que nous avons. Et quelqu'un qui est reconnaissant ne considère pas les choses pour acquises. Quelqu'un qui est reconnaissant ne considère pas les choses pour acquises. Du reste, si on méprise certaines choses qu'on a, ou peut-être on n'aime pas certaines personnes, à l'avenir, peut-être c'est cette personne-là, ou les choses en question, qu'ils vont faire toute la différence dans notre vie. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler l'ingratitude, je vais parler sur le titre de sermon, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Nous sommes familiers avec ce qui se passe aux États-Unis. Ben, juste pour récapituler un petit peu l'histoire de Thanksgiving aux États-Unis. En 1620, il y avait une centaine de ce qu'on appelait, certaines personnes appellent les dissidents anglais, qu'on appelait aussi Père Pèlerin, ont débarqué en Amérique, dans le Mayflower, dans le baie de Plymouth, en Massachusetts. Ils fondèrent la colonie de Plymouth et la ville du même nom. Mais le début de cette colonisation était extrêmement dur, extrêmement difficile. Et il est à peu près la moitié qui ont péri à cause du scorbut. Et les survivants ne durent leur salut qu'à l'intervention de deux autochtones. Par la suite, les choses se sont améliorées. Et ils ont fait un premier Thanksgiving en 1621. Et ils ont fait un autre Thanksgiving en 1623. Après un passage de l'agriculture communale à l'agriculture privatisée et après une plus grande moisson grâce à la pluie inattendue. Et à ce moment-là, dans l'histoire de l'Amérique, ils étaient vraiment reconnaissants à l'égard de leur créateur. C'était des gens très religieux. Et au cours du 18e siècle, les colonies ont généralement observé tous les ans les jours de Thanksgiving. Ce n'était pas un jour marqué par la nourriture et la boisson abondante, comme c'est aujourd'hui la coutume, remarqué. C'était plutôt un jour de prière et de jeûne. Donc c'était vraiment tourné vers Dieu, c'était vraiment religieux, c'était vraiment un esprit de reconnaissance à l'égard de l'Éternel. George Washington, par la suite, a fait une proclamation considérant que c'est le devoir de toutes les nations de reconnaître la providence de Dieu Tout-Puissant, d'obéir à sa volonté, d'être reconnaissante pour ses bienfaits et humblement implorer sa protection et sa faveur en tandis. Et tandis que les deux chambres de congrès m'ont, par le comité mixte, demandé de recommander au peuple des États-Unis qu'un jour public d'action de grâce et de prière soit observé en reconnaissance aux nombreux signes de faveur de Dieu Tout-Puissant. On est loin de ce qui se passe aux États-Unis de nos jours. Abraham Lincoln a proclamé un jour national de Thanksgiving qui soit célébré le dernier jeudi du novembre en 1863. Et depuis 1863, on observe annuellement Thanksgiving aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose, donc, une institution qui était inculquée aux États-Unis, mais même en Europe, je ne savais pas ça, même en Europe, il y avait des jours de remerciement à l'époque. Quand nous regardons l'Ancien Testament, nous sommes très conscients qu'il y a les sacrifices, il y avait les sacrifices, et ces sacrifices que nous ne pratiquons pas, étaient quand même de la part de Dieu, et avait un but, c'était le fait de tourner les gens vers le Christ. C'est marqué dans Galates chapitre 3 verset 24. Ainsi la loi, en parlant de ses sacrifices, Galates chapitre 3 verset 24, ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. C'était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, il y avait des leçons particulières dans chacune des sacrifices. Je ne vais pas parler des sacrifices aujourd'hui, ce sera tout un sermon. Mais l'action de grâce est mentionnée dans chapitre 3. En anglais, il parle de peace offering, mais quand je regarde lexique, il parle d'offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, mais aussi un sacrifice volontaire de remerciement ou des actions de grâce. Et quand nous regardons Lévitique chapitre 7, ça devient très spécifique, et là, il n'y a pas de différence entre l'anglais et le français dans la traduction. Dans Lévitique chapitre 7, il y a quelque chose de très spécifique. Donc, ces sacrifices étaient pour nous conduire à Christ, étaient pour conduire à Christ à l'époque. Lévitique chapitre 7, le verset 11, dit ceci. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain, arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine, frites et pétris à l'huile. Donc, on pouvait offrir quelque chose en reconnaissance à l'Éternel. Quelque chose qui était volontaire. Ça faisait partie des sacrifices. Et dans le millénium, du reste, les sacrifices vont être de nouveau faits. Ézéchiel mentionne à plusieurs reprises, ça faisait partie du culte à Dieu. Les sacrifices, c'était une partie intégrante, une partie importante du culte d'Israël à l'époque. Et on vient de voir aussi qu'il y avait derrière ceci des leçons à apprendre dans Ézéchiel chapitre 45, verset 17. Ézéchiel chapitre 45 et le verset 17, nous lisons ceci. Donc, nous parlons ici à une époque future, le millénium, quand les sacrifices vont être réinstaurés. Et dans le verset 17, nous lisons, le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations aux fêtes, aux nouvelles lunes. Vous voyez donc à quel moment toutes ces choses étaient faites. C'était assez fréquent. Aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira, et là, il parle de plusieurs sacrifices qui sont donnés, plusieurs genres de sacrifices, il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste, et le sacrifice d'action de grâce. Donc, c'était quelque chose qui faisait partie des sacrifices, et ça faisait partie d'un tout. Mais les remerciements, l'action de grâce était là au milieu, si je puis dire, et faisait une partie importante, constituait une partie importante de ces sacrifices. En plus, nous avons aussi le cas des sacrifices volontaires, aussi mentionnés dans Ézéchiel chapitre 46, comme nous venons de voir dans Lévitique chapitre 7. Et là, dans chapitre 46, et le verset 12, si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce. Un sacrifice volontaire d'action de grâce. On lui offrira la porte qui est du côté de l'Orient, etc. Donc quelque chose qu'il donnait de lui-même. Il donnait volontairement. Il offrait des remerciements à Dieu volontairement. Ça faisait partie de ce système sacrifice. On va regarder maintenant Psaume 136. Ce qui est souvent connu sous le nom du Grand Halal. Grand Halal. Dans Psaume 136. Pour que nous puissions avoir une idée de même à l'époque de l'Ancien Testament à quel point les louanges à Dieu et les remerciements à Dieu étaient importants et constituaient une partie importante de la vie de la nation d'Israël. Psaume 136. J'ai la peine à voir ma Bible avec le soleil, mais c'est peut-être, il y a peut-être moyen de régler ceci. Dans Psaume 136, pardon, nous lisons, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et le mot, nous avons en français ici, le mot louer. Nous avons le même mot en hébreu, dans Néhémie chapitre 12, verset 46. Néhémie chapitre 12, verset 46, où c'est traduit, le même mot en hébreu, est traduit en français par action de grâce. Action de grâce. Dans le psaume, ce psaume, le grand halal, était utilisé en groupe lors du service de culte à Dieu. Ce psaume faisait partie, le grand halal faisait partie des coutumes et des usages des Israélites lors des moments de reconnaissance officielle et nationale envers Dieu. Donc, ça faisait partie des coutumes et usages des Israélites lors des moments de reconnaissance officielle et nationale envers Dieu. Et le psaume 136, par la suite, faisait partie de la liturgie de la Pâque. Et le Nelson Study Bible a même dit que c'était le grand halal, était souvent recité dans le temple pendant que les agneaux pour la Pâque étaient en train d'être sacrifiés. Il y avait plusieurs possibilités avec ce psaume 136. Soit c'était chanté entre deux chorales, ou entre une chorale et la congrégation, ou en tant que litanie entre un dirigeant et la chorale ou la congrégation. Et dans le dernier cas, c'est la chorale ou la congrégation qui chanterait le refrain. Alors revenons à Psaume 136. Le psaume 136. Louez l'Éternel, ou rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il donne la raison pour laquelle on loue Dieu, la raison pour laquelle on remercie Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. Et le mot miséricorde ici, l'hébreu c'est hesed ou chesed, et c'est assez répandu dans l'Ancien Testament, en hébreu. Parfois, c'est traduit ici, comme c'est traduit ici, par miséricorde. Parfois, c'est traduit par amour. Parfois, ça peut être traduit par gentillesse. Mais c'est plus que ceci. En réalité, c'est à voir avec la fidélité. Ce mot en hébreu, c'est à voir, chesed, à voir avec la fidélité. Nous connaissons Dr. Levi, Dr. Levi juif, et Dr. Levi s'y connaît en ce qui concerne l'hébreu. Et il a dit que le mot hesed ou chesed veut dire l'amour de l'alliance. l'amour de l'alliance ou la loyauté de l'alliance. Et il y a des commentaires qui disent que c'est le mot amour utilisé dans sa forme la plus pure. Dans sa forme la plus pure, et c'est l'amour, par exemple, qui peut avoir lieu entre deux êtres humains quand ils entrent en alliance entre un homme et une femme. Et c'est Dieu qui dit aussi, dans Jérémie 31, « Je t'aime d'un amour éternel ». Autrement dit, pourquoi je parle de cette miséricorde? Parce que ça montre la profondeur de l'amour de Dieu. C'est l'amour de l'alliance. Autrement dit, Dieu aime d'un amour éternel. Dieu ne veut jamais abandonner son amour. Jamais, jamais. Ça dénote le caractère même de Dieu. Et du fait que le caractère de Dieu ne change jamais, ceci montre la profondeur de son amour. Donc, pourquoi on loue Dieu? Pourquoi on remercie Dieu? Car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Cet amour de l'alliance qui dure pour toujours. Voilà pourquoi nous remercions Dieu. Pourquoi nous rendons les actions de grâce à Dieu. Il donne les raisons dans le psaume 136. Il y a trois raisons principalement qui sont évoquées ici, trois domaines si vous voulez, où il y a des raisons pour lesquelles nous pouvons remercier Dieu. On peut décortiquer ceci. La première raison se trouve dans les psaumes 136, donc toujours entre le verset 4 et le verset 9. Et vous allez voir qu'il y a un thème qui revient ici, entre le verset 4 et le verset 9. Et nous avons aussi, bien sûr, le refrain qui revient aussi. « Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure a toujours cet immense amour de la part de Dieu. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure a toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure a toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a fait les grandes luminaires, car sa miséricorde dure toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure toujours. Et on arrête là, donc au verset 9. Donc Dieu a créé l'univers. Il a créé une habitation pour l'homme par amour, parce que son amour toujours, parce que sa miséricorde dure toujours. David, en tant que berger, pouvait voir les étoiles, le ciel. Il pouvait voir et il voyait aussi son insignifiance par rapport à ça. Nous pouvons réfléchir à l'immensité, la grandeur de la création, la complexité de la création que nous voyons. Et nous pouvons remercier Dieu et rendre gloire à Dieu et lui rendre grâce. Romains chapitre 1 verset 20, je reviens pour assez dire sur ce même thème. Dans Romains chapitre 1 et le verset 20, Romains chapitre 1 et le verset 20. Nous lisons ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on le considère dans ses ouvrages, nous voyons autour de nous voyons la création de Dieu, nous voyons les splendeurs de la création de Dieu. Ils sont donc, les gens qui voient ces choses-là, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. En voyant la création de Dieu, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est miséricordieux, parce que Dieu a cet amour infini, il y a toutes les raisons du monde de rendre grâce à Dieu, de remercier Dieu à cause de la création que Dieu a faite. Et que Dieu a créé cet univers, la terre, pour que l'homme puisse y habiter. Et nous pouvons, même sur un plan individuel, nous pouvons remercier Dieu de nous avoir créés, nous, sur un plan personnel. Ça, c'est la première chose, donc savoir la création de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous pouvons remercier Dieu. Le deuxième aspect, je reviens à Psaume 136. Vous voulez peut-être garder votre place. Psaume 136. À partir du verset 10. C'est la deuxième raison pour laquelle nous pouvons remercier Dieu. À partir du verset 10. Celui qui frappa les Égyptiens, pour laquelle les enfants d'Israël pouvaient remercier Dieu. Celui qui frappa les Égyptiens dans le premier né, car sa miséricorde durera toujours. Toujours c'est le même refrain qui revient. Et il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Il parle donc de sortir les enfants d'Israël d'Égypte, qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands droits, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoriens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours, et donna le pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours, en héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Oui, ce refrain qui revient sans cesse, cette grande bonté de Dieu, et voilà pourquoi nous pouvons louer Dieu pour sa grande bonté. Donc, à cause de son amour loyal, son amour de l'Alliance et sa miséricorde, il a délivré son peuple de l'Égypte. Il les a protégés pour le chemin en allant à Canaan pour qu'ils puissent recevoir la terre qu'il les a promise. Il les a sortis, il les a nourris, il les a protégés, il les a conduits et il les a donné la victoire. Verset 23. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Et ça, c'est un plan personnel qui nous a, le fait que Dieu nous a délivré de nos péchés, il nous a sorti de notre ignorance, il nous a protégés, il nous a aidés, et il nous donne la victoire. Il nous sort de nos péchés, il nous a sorti de notre ignorance, il nous a protégés, il nous a appelés, il nous a protégés, il nous a aidés sur le chemin, et il nous donne la victoire, et il nous aide encore. Donc à nous de ne pas oublier ces grandes bénédictions. Déjà pour Israël à l'époque, il ne devait pas oublier les grandes bénédictions de Dieu, et le parallèle, bien sûr, est là pour ce qui nous concerne. Que nous n'oublions pas les grandes bénédictions de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons remercier Dieu tous les jours. Pour le passé, pour sortir de ce monde mauvais, et le fait qu'il nous donne l'assurance du royaume de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1, et le verset 9. Je saute ici au milieu d'un contexte, mais c'est pour illustrer un point qui se trouve dans le verset 10. Car raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, donc ça s'applique à nous aussi, bien sûr, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Qui nous délivre de la colère à venir. Dieu est notre délivreur. Dieu est celui qui nous délivre constamment, qui nous protège constamment. Et nous avons donc toutes les raisons du monde d'être reconnaissants, d'être reconnaissants à l'égard de Dieu. Et puis il y a une troisième chose qui est évoquée, qui est illustrée dans le psaume 136. On y revient. Psaume 136. On est arrivé au verset 24. Donc les deux derniers versets, verset 25. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours, louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Le verset 25, donc celui qui donne la nourriture à toute chair. Et Dieu a mis en place un écosystème par lequel tout fonctionne. Si l'homme n'intervient pas, Dieu a mis en place donc un système que tout le monde aurait de quoi manger si l'homme n'en s'en mêle pas. Et un système biologique pour que tout le monde puisse survivre. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est miséricordieux. Parce que Dieu fait preuve de l'amour de l'alliance. Et Dieu, bien sûr, s'occupe individuellement de nous. Nous sommes familiers avec Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, c'est le verset 25. On peut lire ceci d'une façon machinale, si vous voulez, mais c'est très très vrai en ce qui concerne les gens qui en rapport avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, c'est le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Les gens qui ont vu la main de Dieu dans leur vie, que Dieu pourvoit à leurs besoins, même à travers les moments difficiles, vont être infiniment reconnaissant à l'égard de Dieu. Et reconnaissant en général. Verset 30. Si Dieu remet ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous mettra-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Et les gens qui ont vu dans la main de Dieu, dans leur vie, que Dieu a pourvu, que Dieu les a vêtus, sont inévitablement reconnaissant à l'égard de Dieu. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les gens qui cherchent, qui ont cherché le royaume de Dieu d'abord dans leur vie et qui ont vu la main de Dieu sont, bien sûr, reconnaissants à l'égard de Dieu. Dans 1 Chronique chapitre 29, c'est un sujet que j'ai illustré, enfin que j'ai mentionné plusieurs fois, plusieurs prises pour les offrandes, dans le contexte des offrandes, mais j'ai voulu le voir dans un autre contexte aujourd'hui. 1 Chronique chapitre 29, c'est à propos de David, entre autres, à la fin de son règne. 1 Chronique chapitre 29. Il va bientôt mourir. Et à ce moment-là, dans sa vie, lui qui était un fugitif, à l'époque de Saul, il est devenu un roi puissant. Il est devenu un roi riche même, très riche. Verset 3. C'est David qui parle. En plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Et c'est mentionné ici combien il donne, combien, la quantité d'or qu'il donne. et d'argent. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, c'est ce qui est le plus pur. Et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois du bâtiment. L'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Alors, la question se pose, c'était combien un talent? La nouvelle, la Bible nouvelle française courante dit ceci. Je donne plus de 100 tonnes d'or d'Ophir. 100 tonnes d'or d'Ophir. Et 240 tonnes d'argent fin destinées à recouvrir les parois du temple. Si nous prenons comme ceci, comme véridique, parce que les commentaires varient pas mal, à propos de cette quantité, quantité en termes modernes de ces talents. Mais si vous prenez un lingot d'or d'un kilo, de nos jours, c'est 49 000 euros. Plus de 49 000 euros. Et une tonne, donc, ça fait plus de 49 millions d'euros. 100 tonnes, ça vous fait presque 5 milliards. Bon, il y a des commentaires qui disent que c'est beaucoup moins que ça, mais toujours est-il que David était extrêmement riche pour pouvoir donner tout cet or pour le temple. Et ce qui se passe quand les hommes sont riches, les richesses deviennent leur Dieu. David était un homme de Dieu exceptionnel, et spirituellement, il n'a pas déraillé à cause de sa richesse. Verset 5. Il dit à la fin du verset 5, qui va encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Qui? Il parle à Israël, et il donnait son propre exemple, et son exemple était suivi, verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée, et dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. Il déborde de gratitude, parce qu'on pouvait donner à Dieu. À toi, verset 11. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre appartient à toi, éternel, la reine, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi qui viennent les richesses, la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est donc ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Le mot louer, c'est le même mot que nous avons vu dans le psaume 136 tout à l'heure, ainsi que dans Néhémie chapitre 12, verset 46, qui peut être traduit par action de grâce. Et il y a un commentaire qui dit que l'expression ici montre que c'est quelque chose, une action continue. Et c'est une action continue. Verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tu viens de toi et nous recevons ta main ce que nous t'offrons. Pour David, c'était un privilège de pouvoir donner. Et il remercie Dieu pour le privilège de pouvoir donner, justement. Quand nous regardons l'apôtre Paul, quand il a écrit Philippiens, il était en résidence surveillée. Il y a plusieurs épîtres qu'il a écrit quand il était en prison. Et il a fait parmi son plus grand travail pendant qu'il était en prison. Et même s'il avait peut-être une certaine liberté, s'il était en résidence surveillée, il était quand même enchaîné, il était ambassadeur dans les chaînes. Et ambassadeur dans les chaînes, enchaîné avec des soldats romains, qui n'étaient pas des enfants de cœur, plutôt des guerriers endurcis. Et souvent, il y avait le côté humanitaire qui n'existait pas, que nous connaissons dans le monde moderne. À l'époque, les gens étaient habitués aux arènes, à la mort, à la souffrance. Et vous imaginez Paul qui écrit dans ces circonstances difficiles. Il ne pouvait plus voyager, il ne pouvait plus prêcher dans les synagogues. Et nous avons subi et nous subissons encore le COVID-19, où nos libertés ont été restreintes. Et nous avons une toute petite idée de toute proportion gardée de ce que Paul a connu. Et ici, dans Philippiens, il parle de sa mort. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Mais il a un esprit très positif. Et il a ses yeux sur ses ouailles. Sur le bien de ses ouailles. Dans Philippiens chapitre 4, et le verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et nous voyons ici, ça fait partie de la prière, ça fait partie de, on demande à Dieu des prières et des supplications, oui, mais avec des actions de grâce. Et parfois, on peut demander des choses à Dieu et on oublie les actions de grâce. Mais c'est le lien qui aide dans nos prières. C'est le lien qui aide dans nos prières. Nos prières, si on ne fait pas attention, peuvent être égoïstes. Mais c'est bon qu'il y ait une bonne portion de nos prières qui consiste en remerciement à Dieu, en reconnaissance à Dieu. Le sujet du serment, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance donne, justement, logiquement, le fait d'exprimer la gratitude. L'exprimer auprès de Dieu, l'exprimer auprès de nos semblables. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Nous voyons ce thème qui revient dans les épîtres de Paul. Ce thème de reconnaissance, ce thème de gratitude, rendre grâce, comme c'est marqué ici dans la Bible. Éphésiens chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Ça faisait partie de sa vie. Il était comme ça. Il ne cessait de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans ses connaissances. Il priait pour ses ouailles, mais il était content, il était reconnaissant. Il rendait grâce, justement, pour ses ouailles. Éphésiens, nous sommes à Éphésiens chapitre 5, et le verset 20. Éphésiens chapitre 5, et le verset 20. Il donne une consigne aux gens d'Éphèse. Il insiste beaucoup sur le fait de rendre grâce. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu, le Père. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était sa façon de vivre, sa façon d'être, ça faisait partie de sa vie. Et ceci est très bien illustré dans l'épître de Thessaloniciens. Thessaloniciens, et je vais vous citer plusieurs versets ici dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 2 d'abord. De nouveau ce même thème qui revient. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Continuellement. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Il avait une relation formidable avec ses ouailles. Lui qui avait l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Il répète la même chose. Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 9. Chapitre 3 verset 9. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Il pouvait le dire. Et puis dans chapitre 5, verset 18. Chapitre 5, verset 18. Toujours à Thessaloniciens. Le verset 17. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose, pas uniquement ce qu'on peut faire, c'est une bonne idée de faire, mais c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons également voir dans la même page, probablement pour vous, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous on voit ici qu'il y a une autre idée qui, un autre aspect qui revient ici, c'est le fait de devoir. C'est un devoir. C'était pas uniquement quelque chose qu'il pouvait faire, qu'il avait plaisir à faire, qu'il faisait continuellement, mais ici c'est marqué, nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Voilà la justice. C'est une responsabilité qui considère ceci comme une responsabilité. Chapitre 2, verset 13, pour terminer. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Nous avons aussi, bien entendu, l'exemple suprême du Christ. Quand il a, ça c'est dans Jean chapitre 11, verset 41, quand il a ressuscité Lazare, dans Jean chapitre 11, et le verset 41, Jean chapitre 11, verset 41, ils ôtaient donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et peut-être, on ne pense pas toujours rendre grâce quand Dieu exauce nos prières. Le Christ donnait bien sûr l'exemple de remercier Dieu quand il a fait la bénédiction des 5 pains et des poissons, quand il a fait la bénédiction des 7 pains et des quelques petits poissons. Pour que les gens puissent manger, après que le Seigneur eut rendu grâce, c'est marqué. Lors de la Pâque aussi, il a béni le pain, il a rendu grâce. C'était son habitude. Et puis, ça c'est vis-à-vis de Dieu. Mais nous voyons implicitement aussi des exemples dans la Bible, le fait de rendre grâce, ou remercier d'autres personnes. Vous vous rappelez quand Ruth est venue trouver Boaz, quand il était couché, et qu'elle était au pied de ses, couché à ses pieds. Et quand, Ruth lui a parlé après, il a découvert qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui était couché. Il a dit à Ruth, sois béni de l'éternel, ma fille. Et c'est pas marqué qu'il était reconnaissant, qu'il a pas rendu grâce, mais visiblement, il était reconnaissant. Et c'est pour ça qu'il a sorti cette phrase, « Sois béni de l'Éternel, ma fille ». Il ne pouvait pas être autrement que reconnaissant à l'égard de Ruth, de son comportement, de comment elle était. Et puis David avec Abigail, quand Abigail est venue au-devant de lui avec la nourriture, « Béni soit ton bon sens et béni sois-tu ». Il était visiblement aussi très reconnaissant. Reconnaissant à l'égard de Dieu, reconnaissant à l'égard de notre prochain. Les gens qui sont, entre guillemets, ordinaires, il n'y a pas vraiment des gens ordinaires, ce sont des gens, chaque personne est quelqu'un unique. Et nous pouvons apprendre des autres. Nous pouvons être reconnaissants pour le fait que nous pouvons apprendre des autres. Mais souvent, nous recevons plus que ce que nous donnons dans la vie. Mais il est peut-être parfois difficile de reconnaître ce que nous devons aux autres. Par moments, il est aussi peut-être, pour certains d'entre nous, difficile de remercier quelqu'un tout simplement par orgueil. Tout simplement par orgueil. J'ai vu sur Internet un site qui s'appelle My Easy Santé. Bon, c'est de l'anglais et français. Ma santé facile. Mais il parle des bienfaits de la santé. De la reconnaissance. Et il dit ceci. La science le prouve. Être reconnaissant au quotidien nous rend plus heureux. Qu'attendez-vous pour adopter la bonne attitude? Quels sont les avantages? Être reconnaissant nous aide à maintenir notre bonheur et notre santé. En effet, selon les scientifiques, prendre l'habitude de remercier libère des neurotransmetteurs tels que la dopamine, responsable des sensations agréables et relaxantes. On parle pas mal de dopamine de nos jours. Ce sont donc des neurotransmetteurs. La gratitude produit également des changements importants dans la biologie du cerveau, dû à la plasticité neuronale. La plasticité neuronale. Des régions sont activées qui permettent notamment une meilleure compréhension des autres. Et tout ça, parce qu'on est à la base reconnaissant et qu'on exprime cette reconnaissance, sont activés qui permettent notamment une meilleure compréhension des autres, compréhension des autres, atténue le stress, améliore la fréquence cardiaque et réduisent la douleur physique et émotionnelle. Un peu plus loin, la recherche en neurobiologie du bonheur a montré que lorsque nous sommes reconnaissants pour les choses quotidiennes, ça c'est important, pour les choses quotidiennes, nous devenons plus patients et plus capables de prendre des décisions sensées. Et on a tous besoin de prendre des décisions sensées. De même, les personnes habituées à être reconnaissantes pour les petits gestes quotidiens sont plus attentives et créatives, ont une meilleure idée de leur propre corps et mènent une vie plus saine, naturellement, et avec moins d'efforts, c'est-à-dire, entre parenthèses, c'est-à-dire avec l'alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Sur le plan pratique, vous rappelez peut-être ceux parmi vous qui sont dans l'église depuis un certain temps, on chantait ceci au collège. Count your many blessings. C'est un cantique en chanté. Et on a traduit ceci en français. Bon, j'ai plusieurs traductions. Je pense que la meilleure que j'ai, c'est ceci, que je vous lis. On a fini par traduire ceci en français. J'ai ici, l'ancien livre de cantique. Où ça y est. Et donc, je vous donne dans la traduction en français. Quand sur les flots de la mer, tu es secoué par la tempête, quand tu es découragé, pensant que tout est perdu, quand tes nombreuses bénédictions. Ensuite, c'est là que je voulais souligner dans cette traduction, nomme-les une par une. Nomme-les une par une, et ça te surprendra ce que Dieu a fait. Quand tes bénédictions, nomme-les une par une. C'est important, ça, de compter ces bénédictions une par une. Quand tes bénédictions, vois ce que Dieu a fait. Et quand nous comptons nos bénédictions une par une, nous voyons l'immense nombre de bénédictions que nous avons dans la vie. À un moment donné, dans notre vie ici à la maison, notre situation n'était pas du tout facile. C'était un moment même très difficile. Point de vue financier, rendez-vous de travail. Et Dieu était toujours présent dans notre vie. Et sans penser à ce cantique, on a commencé à le mettre en pratique. On a commencé à compter nos bénédictions les unes après les autres. Et on a vu la main de Dieu. On a vu que Dieu ne nous a pas abandonnés. Et on a commencé à compter des petites choses. Des petites choses. Et on a commencé à comptabiliser les bénédictions, additionner ces bénédictions. On a commencé à les compter, les nommer une par une. Et on a commencé à faire ça le sabbat. On a commencé à faire le sabbat, pendant le sabbat, et on se rend compte de combien de bénédictions nous avions. Et bien sûr, nous étions reconnaissants et on pouvait remercier Dieu pour toutes ces bénédictions. Et c'était pour finir ces années-là, qui étaient des années très difficiles, étaient aussi des années de bénédiction. Parce que nous voyons la main de Dieu, nous voyons des choses inattendues à droite, à gauche. Dieu a pourvu à nos besoins, parfois de manière vraiment inattendue. Et c'était magnifique parce que ça nous faisait énormément de bien à la maison. De voir la main de Dieu, de voir ses bénédictions et de pouvoir les compter et de pouvoir par la suite donc remercier Dieu. Parce que il nous avait pas abandonnés, même à travers les moments très difficiles. Quand la vie nous donne toutes les raisons du monde d'être négatif, il faut penser à une bonne raison d'être positif et pas avoir les conséquences d'être reconnaissant. Du reste, il est beaucoup plus agréable d'être avec quelqu'un qui est reconnaissant que d'être avec quelqu'un qui est ingrat. C'est très agréable d'être avec quelqu'un qui est reconnaissant. Et j'ai vu ça, et j'ai vu aussi, pas uniquement est-ce que j'ai vu des gens qui étaient reconnaissants, mais j'ai vu aussi l'effet que ça a sur d'autres personnes quand ils sont face à quelqu'un qui est reconnaissant. C'est la même chose avec le peuple de Dieu vis-à-vis de Dieu. Dieu est content quand son peuple est reconnaissant. On voit bien sûr les enfants d'Israël qui n'étaient souvent pas reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Et nous pouvons, et je termine avec ça, nous pouvons prendre l'exemple de Jonas aussi. Vous vous rappelez Jonas, il était avalé par un grand poisson. Et c'est quand Dieu l'a délivré qu'il a dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri, et j'aime beaucoup comme c'est marqué ici, avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Ça c'est Jonas, non? Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Nous connaissons la suite de l'histoire, malheureusement. Dans le chapitre 4, Jonas, Dieu, qui est miséricordieux, justement, qui est cet amour éternel, ne va plus intervenir pour Ninive, pour le détruire. Et c'est marqué dans la Bible que Jonas était irrité. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Et Jonas n'était plus à ce moment-là sur la même longueur d'onde que Dieu. Si nous voulons être sur la même longueur d'onde que Dieu, il faut que nous ayons un esprit de reconnaissance avec Dieu, avec tout le monde, et que nous exprimons cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres.